France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
La nuit fut courte pour Sonia Videra-Terton, mais grâce au masque, on ne voit pas les cernes. Elle ne quitte plus la maison de la radio. Hier soir, sur la scène de l'Auditorium de Radio France, pour le concert d'ouverture de Présence, en direct sur France Musique. On peut le réécouter sur notre site. Il y a également la vidéo sur notre page Facebook. Vous avez joué deux pièces, l'une de Pascal Dussapin, à l'honneur de cette édition. L'autre, c'est l'une de vos pièces. Bonjour Sonia Videra-Terton. On va l'écouter d'ailleurs dans quelques instants. Cette pièce, c'est tout frais, ça date d'hier soir. Qu'est-ce que vous avez ressenti hier soir en jouant pour nos micros et pour nos caméras?
Oh, beaucoup de choses. Déjà, quelque chose de très nouveau. C'est une sorte de présence-absence. On sentait quand même une présence. Tout le rituel du concert était là, ce qu'on n'avait pas vécu depuis longtemps, c'est-à-dire la journée de préparation, le trac, tout ce qui se passe dans le corps de conscient et d'inconscient. L'approche du moment, le visage qu'on voit entièrement, mais que c'est pas quand même un petit peu voilé parce que jusqu'au dernier moment on garde le masque, et puis l'arrivée sur scène, et tout d'un coup dans la salle une sorte de, c'est là que je veux dire présence absence, c'est-à-dire que on sent bien les vibrations de gens là, mais de gens qui n'applaudissent pas, donc c'est vraiment c'est comme rentrer dans un roman qu'on connaît pas et qui a quelque chose des liens avec la vie réelle et d'autres qui vous font basculer dans une vie irréelle. Et c'est ce mélange qui était très étrange. Et en plus, j'avais un autre fil très fort qui était que je jouais Immer, qui est une des œuvres vraiment sublime pour violoncelle de Pascal Dussapin, et que je l'ai beaucoup joué et travaillé. Je ne l'avais pas joué depuis longtemps. Et ça, c'était vraiment un fil vers le passé, mais qui était là aujourd'hui, qui me rattachait à ce passé, et en même temps, voilà, dans cette étrange atmosphère que j'ai décrite. Donc c'est quelque chose, je ne peux pas dire que c'est négatif, c'est juste terriblement étrange. C'est comme un jeu de couleurs, un prisme où il y a des rencontres de choses. Et puis, ça dit aussi que la présence humaine de personnes qui écoutent, c'est extrêmement fort.
Parmi ces vibrations, parmi ces respirations, il y a celle du créateur, du compositeur Pascal Dussapin, qui était là, là jusqu'à dimanche, et qui vous a écouté, qui vous a regardé. Qu'est-ce que ça change quand le compositeur est là, qu'on le sait quand on joue?
En fait, pour dire la vérité, je pense que, enfin moi en tout cas, j'oublie. Parce que l'idée quand on joue, c'est encore une fois, je parle d'un univers particulier, mais c'est de partir dans quelque chose où le regard et l'écoute de l'autre ne jouent pas sur ce qu'on est en train de faire, y compris le compositeur. Il est très présent, mais d'une autre manière, enfin pour moi. Et ça fait partie d'un arrachement pour moi. Quand on joue, on s'arrache de quelque chose. On s'arrache du quotidien pour vivre un moment où on raconte quelque chose avec son instrument. Et du coup, là, c'est presque larguer les amarres. Donc, on n'est pas amarré au compositeur. Par contre, il est présent d'une autre manière, évidemment. Et après, on le retrouve.
Larguer les amarres avec Immer de Pascal Dussapin, à réécouter sur francemusique.fr. Et puis juste avant, vous avez joué avant le son, l'une de vos pièces d'après un chant égyptien. En voici le début.
Thank you.
C'est tout frais, c'était il n'y a même pas 12 heures, à quelques dizaines de mètres de là où on parle, à l'auditorium de Radio France, pour le concert d'ouverture de présence, avant le son de Sonia Vider-Atherton, par Sonia Vider-Atherton, notre invitée ce matin. Qu'est-ce que ça fait de se réécouter, j'imagine, pour la première fois, quelques heures après, et après une courte nuit?
Oui, en général, je laisse toujours du temps, parce que je sais que ma machine à critiquer va être sur turbo, que je préfère attendre. Mais là, je suis contente d'entendre la prise de son, que je trouve très belle. Et voilà, puis j'écoute avec vous. Alors
avant le son, qu'est-ce que vous avez fait de ce chant égyptien? Qu'est-ce qui est...
C'est le ney, c'est un instrument pour lequel j'ai vraiment une passion. Et ce rapport entre la note réelle et l'harmonique est comme quelque chose qui me fascine, parce que c'est comme un espace... un espace ouvert entre deux notes, mais qui se crée dans chaque note. C'est-à-dire que tout d'un coup, hop, il y a ce basculement vers l'harmonique. Et j'ai entendu ça que dans cet instrument. Et je trouve que c'est l'instrument à vent qui on dirait un instrument à cordes, mais qui amène cette chose-là. C'est-à-dire que dans chacun de ces sons, il porte avec lui cet espace. Et c'est l'espace de... l'espace de tout, quoi. J'ai l'impression qu'on peut glisser tellement de choses dedans. Alors j'ai cherché à le faire au violoncelle, j'ai cherché comment le traduire, et voilà, ça donne ça.
Avant le son, qu'on peut réécouter sur francemusique.fr, même si on a bien compris que vous n'allez pas trop réécouter, ou pas tout de suite. Sonia Vider-Atherton, on connaît, et on va écouter jusqu'à 9h vos arrangements, vos transcriptions. Est-ce que cette période, ces derniers mois, ont été propice, soyons aussi positifs, à la composition, à Sonia Vider-Atherton, compositrice?
Non, j'ai continué des choses de plutôt d'arrangement, d'univers sonore, de l'écriture aussi, parce que je suis en train de travailler sur mes années en Union soviétique, et il est en train d'en être des choses. Donc c'est plutôt sur la forme de comment on peut exprimer des choses, parce que je crois qu'à travers la musique, à travers les mots, finalement, c'est toujours la source de pourquoi on a besoin de raconter, puisque c'est bien ça notre métier, c'est de partager des choses. Finalement, peut prendre différents vecteurs. Et là, cette période, elle a été très... très forte pour ça, parce qu'elle questionne évidemment, comme toutes les bousculements. Et alors, j'ai quand même enregistré du Bach là récemment, donc joué en septembre. C'est comme un peu des bouées dans une mer où on se dit, tiens, il y a celle-là, et puis il y a celle-là qui vous garde un pied avec une réalité. Et puis, il y a aussi cette chose qui a été, je pense, pour tous les musiciens. Comment gérer le fait qu'il n'y ait pas de concert, et le fait de rester comme les danseurs, les sportifs auxquels j'ai... Et même les acteurs, parce qu'ils ont aussi une gymnastique à trouver, même si elle est moins visible que nous, où nous on peut faire nos gammes et dévaler certains concertos, où je sais pas, chacun fait, imagine, où se met sur le chantier, sur l'établi, telle œuvre difficile, parce qu'on a tous vécu comment ce vide va être traversé et comment on va en sortir. Et hier, on discutait avec une musicienne qui était sur le plateau aussi hier soir. Et tout de suite, on a parlé de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait? Comme on perd vite cette habitude parce que c'est physique, cette chose. C'est animal, presque, le fait de se préparer, puis d'aller, puis de sortir ce qu'on a à sortir. Puis l'après, la tension qui redescend. Donc, tout d'un coup, vivre sans tout ça et le garder prêt pour le jour où. Donc tout ça, ça a fait vraiment beaucoup de réflexions.
Ces émotions dont vous parliez tout à l'heure, il y a un sentiment de manque, de même physique, de cette adrénaline, comme on dit, ou d'autres hormones.
Ben oui, et j'en parlais. C'était une discussion qu'on avait souvent avec eux. J'en parle, la Chantal Ackerman, c'est qu'elle disait, quelle chance que vous avez, vous, les gens qui vont sur scène, de sentir l'organisation de cette énergie, c'est-à-dire ce moment de ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire la préparation, le trac, le moment où on donne et puis ensuite la retombée. Et c'est vrai que quelqu'un qui écrit, il y a des énergies, ou peut-être Pascal du Sapin, je ne sais pas comment il en parlerait, mais il n'y a pas cette, vous voyez, cette forme de montée très puissante et de redescente. Il y a ce plat quand je dis plat, c'est un plat beau, hein, c'est pas un plat mou, c'est comme une immense plaine où c'est tous les jours avec ce, faut retourner à sa page et retourner, parfois c'est vide et parfois il y a une note ou un mot, une phrase, voilà. Et il y a pas cette décharge. Voilà. Donc oui, c'est physique, c'est sûr.
Sonia Vider-Atherton, Chant juif, c'est un album qui paraît ce mois-ci. Donc parmi ces choses qui restent, il y a deux disques là ce mois-ci. Il devait sortir un peu plus tôt et puis tout bouge en ce moment. Ce sera dans le courant du mois des chants juifs. Vous évoquiez Chantal Lackermann. On écoute d'abord l'un de ces chants et puis on en parle après. Chanson juive traditionnelle avec Sonia Vider-Atherton au violoncelle. Notre invitée ce matin est la merveilleuse Daria Ovora au piano. Un enregistrement qui a une vingtaine d'années mais qui reparaît dans une nouvelle version chez Alpha Classics. Ce sera à la fin du mois avec ses musiques traditionnelles. Il y a également des compositions de Jean-François Zigel et puis une nouveauté, Maurice Ravel, chanson hébraïque, Kaddish, Énigme éternelle dans une version avec orchestre, le Sinfonia Varsovia. Peut-être, si on peut commencer par ces chants juifs, on parlait de Chantal Lackermann, c'est avec elle que tout a commencé à la fin des années 80, Sonia Vider-Atherton.
Oui, c'est-à-dire que pour ce cycle de chants juifs est né parce qu'elle m'a demandé de travailler à la musique du film Histoire d'Amérique qu'elle faisait à New York, et qui est une scène de théâtre la nuit, sous un pont où elle a accroché des petites ampoules, et là il y avait des acteurs qui pour beaucoup ont dû vivre beaucoup des choses qu'ils racontaient, et Chantal a écrit des monologues, des dialogues, quelque chose de extrêmement intime et théâtral à la fois. Et elle m'a dit, est-ce que tu pourrais réfléchir, faire la musique. Et c'est comme ça que je me suis plongée dans cette musique liturgique juive d'un certain courant qui est le courant hassidique, et que j'ai beaucoup écouté les razanes, découvert beaucoup de choses. Ça m'a fait vraiment comment dire ça, creuser, utiliser, chercher dans la course d'Archet une expressivité que j'ai encore, qui m'a beaucoup apporté et qui est toujours restée dans mon jeu. Parce que, et je revenais d'Union soviétique où vraiment la course d'Archet était un des toujours très très travaillé.
Vous avez donc fait une partie de votre formation, on l'a pas dit.
Après le Conservatoire de Paris, je suis partie à Moscou étudier avec Natalia Chakovskaya. Et c'est en rentrant de là que j'ai rencontré Chantal. Et quelques années après, elle faisait ce film. Voilà. Et du coup, j'ai fait de telles trouvailles. Et puis, j'ai travaillé avec donc Jean-François Zigel, comme vous l'avez dit. Et puis, très vite, rejointe par Daria, la merveilleuse Daria. Et il est né ce cycle de chants juifs, dont certaines sont dans le film Histoire d'Amérique, mais qui est avec Chantal, on s'est dit, mais il y a tellement de musique magnifique, il faudrait en faire un disque parce que tout ne rentrera pas dans le film. Et voilà comment c'est né.
Et là, le disque est amplifié, augmenté, remanié. C'est un disque vivant où vous ajoutez...
Oui, exactement, parce qu'au cours des années, finalement, il ne me quitte pas. Il est là. Et puis, chaque fois, je fais un ajout, puis j'enlève parce que j'aime plus, et puis je rajoute autre chose, et puis ça raconte, quoi. Dedans, il y a ma rencontre avec Janos Fürst, aussi ce grand chef d'orchestre que...
Avec le Sinfonia Varsovia.
Oui, et donc on a enregistré Bartok, Shostakovich ensemble, et ses mélodies de Ravel. Et donc j'aime bien l'idée que des choses que vous faites, un jour vous les attrapez, vous les mettez dans un autre projet, puis ça prend une autre couleur, et ça devient vraiment un puzzle.
Chant juif, chez Alpha Classics. Je le disais tout à l'heure à 8h, petite parenthèse, mais les films de Chantal Akerman sont désormais disponibles sur la plateforme, la Cinéthèque, qui est gérée par des réalisateurs. C'est jusqu'à mi-mars, et donc on peut voir ces films qu'on ne pouvait pas voir, Histoire d'Amérique
c'est magnifique.
Un Ivor à New York, dont on écoutait la musique que vous jouez, on écoutait Cole Porter tout à l'heure, et c'est à nouveau disponible. Un autre disque, un disque peut en cacher un autre, Alpha Classics. Quand j'ai vu que vous enregistriez les concertos de Boccherini, je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Et puis, en l'écoutant, bah, oui, c'est étonnant.
Thank you.
Boccherini comme vous ne l'avez jamais entendu à 8h54 sur France Musique avec ce final du concerto en ré majeur. Mais on a aussi entendu un peu de Handel, Sonia Widder-Atherton avec, on va les citer, ces musiciens, Françoise Rivalan au cymbalum, Amaryllis Billet et Romain Millet, violon et basson, et Rémi Magnan à la contrebasse, un disque qui paraît tout prochainement chez Alpha Classics, son titre Cadenza, et donc trois concertos de Boccherini, mais aussi des musiques de Courtac, de Stravinsky, de Françoise Rivalon et de Sonia Widder-Atherton. Quel est donc cet objet étrange et quelle est cette musique qu'on vient d'entendre, Sonia Widder-Atherton?
Ah ben, alors, la partition de violoncelle, je vous promets, il n'y a pas une note qui n'est pas de Boccherini, enfin, c'est vraiment la partition de violoncelle solo. Et l'arrangement, c'est comme si j'avais... je prends l'exemple d'une pièce de théâtre et que j'avais voulu rendre une pièce à 30 personnages, juste avec 3 personnages. Et à chacun, j'ai donné un rôle pour essayer de tirer vraiment ce qui, dans Boccherini, m'a semblé d'une telle originalité, d'une telle force, comme si je voulais un peu le mettre à nu de ça, parce que au lieu d'avoir beaucoup de premiers violons, des seconds violons, quelque chose qui assied un peu cette musique, qui peut, tout d'un coup j'ai eu envie de la mettre à nu en fait.
Vous l'aviez déjà joué en version traditionnelle, la musique de Boccherini?
Oui, et j'aime beaucoup Boccherini. J'aime sa liberté, j'aime son quelque chose qui le fait partir comme ça dans des grandes phrases où on se dit mais jusqu'où il va aller. Il y avait une phrase de Maurice Gendron quand il parlait de l'aigu, il disait les cimes neigeuses de la Colophane. Ouais. Et j'ai toujours adoré cette phrase, les cimes neigeuses de la Colophane. Ben Boccherini, il est tout le temps fourré là-bas dans les cimes neigeuses. Et des doubles notes et des rythmiques de danse espagnole et vraiment une imagination débordante tout le temps. Donc en amenant là le cymbalum et avec Françoise Rivalan, avec laquelle on a vraiment travaillé à ces transcriptions, ça amenait quelque chose de l'harmonie aussi, de la couleur, des cordes frappées, le côté populaire de la danse, le velours que peut avoir le cymbalum, le violon qui est un peu comme le confident absolu, vraiment intime, comme la nourrice dans la tragédie grecque, celle à qui on chuchote, qui est tout le temps là à suivre les actions du violoncelle, toutes les prises de risque, tout le violon toujours là. Donc ça, c'était son rôle. Sur deux des concertos, on est juste toutes les trois. Et pour un des concertos, ces nouvelles couleurs que sont le basson et la contrebasse.
Sauf qu'on a entendu aussi un air d'Altina de
Voilà, Nel, alors ça c'est les cadences.
Il y a aussi des cadences.
Voilà, et les cadences...
Miles Davis aussi.
Oui, je me suis dit, l'espace des cadences, qu'est-ce qui pourrait devenir? Et j'ai eu l'idée de ses rêves. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que je disais tout au début, peut-être c'est pas un hasard, mais l'idée du rêve c'est quoi? C'est quand même de partir dans une histoire où on se dit, oh, mais j'ai rêvé ça, mais... Et il y a quand même des fils, des liens avec une réalité qui vous concerne. Mais on peut partir tout à fait ailleurs. Et bien, les cadences, je les ai imaginées comme des rêves. C'est-à-dire que quelque chose dans le concerto m'amenait à basculer vers telle musique. Et les fils, ils existent. Et après, donc il y a ce rêve qui est là dans ce qu'on a écouté, c'est Handel, ça peut être tout ce que vous avez cité. Et tout d'un coup, poum, le rêve termine et on revient dans Boccherini.
Et on referme le rêve, Sonia Widder-Atherton. Cadenzas, Luigi Boccherini, revu par vous et Françoise Rivalan, ça paraît chez Alpha Classics tout prochainement. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur France Musique après ce concert hier soir qu'on réécoute sur francemusique.fr. On vous retrouve également dimanche, ce sera diffusé en mars, mais vous allez jouer du sapin et aussi Betsy Jolas
et Bernard Faucroul.
Et vous serez
avec Bernard Faucroul.
Merci beaucoup.
Merci encore.
Et à très bientôt. Demain, notre invité sera le romancier Jean-Baptiste Andrea.
À réécouter sur francemusique.fr.